Bonjour et bienvenue sur RFI dans la danse des mots qui, comme souvent le lundi, s'intéresse à des questions d'enseignement et d'apprentissage de la langue française. Alors, un petit voyage dans l'espace et dans le temps. On va aller à Liège et se rappeler de ce qui s'y est passé en juillet dernier. C'était entre le 20 et le 23, le deuxième forum mondial de la langue française où de milliers de jeunes francophones se sont retrouvés pour inventer, discuter, montrer ce qu'ils savaient faire et jouer avec les mots, en fait. C'était ça l'important. Expérimenter son aisance et sa virtuosité avec la langue française. Et pour cela, rien de tel que ce qu'on appelle des joutes oratoires, c'est-à-dire des combats de langue. Alors, je vous propose un extrait de celle que j'ai entendue à l'initiative d'une association burkinabé. On sait que le Burkina Faso, ces derniers temps, est un pays où le débat démocratique a été un petit peu secoué. Eh bien, justement, voilà ce qui s'est passé à Liège, soutenu par l'Assemblée parlementaire de la francophonie, une joute oratoire qui est une imitation, qui est un jeu. Ça n'avait pas lieu dans une vraie assemblée nationale, mais c'était représenté de façon tout à fait fictive, à l'initiative de deux jeunes burkinabés en particulier, qui sont Jonas Basile et Saïdou Kohanda.
Les règles du jeu. Nous avons une opposition qui, bien sûr, va défendre ses convictions face à notre gouvernement. Chaque équipe est composée de quatre orateurs. Le premier à intervenir vient du gouvernement. Il exposera, bien sûr, le point de vue du gouvernement et défendra leurs convictions. Et nous passerons ensuite à l'opposition et nous allons à tour de rôle voir le gouvernement et l'opposition se succéder pour jusqu'au dernier orateur, je rappelle, pour c'est bien sûr manipuler la langue française et nous démontrer que par le verbe ils peuvent défendre leurs convictions et non la violence. Bien sûr, je rappelle, le débat est un combat très sanglant avec pour arme les mots. Veuillez maintenant acclamer pour les encourager les deux équipes. Le jury va les apprécier sur quatre critères, je rappelle. Il y a d'abord l'argumentaire qui sera noté sur 5. Ensuite, l'éloquence notée sur 5. Et nous allons bien sûr apprécier le travail d'équipe et ce qu'on appelle l'originalité, et pour certains, le petit plus. Sur 5, chaque orateur est noté sur 20, et le total, bien sûr, des notes de chaque orateur fera, bien sûr, le total enregistré par équipe, et nous allons, en ce moment, départager les deux équipes.
Merci, et bonjour. Chers compatriotes et chers membres de l'opposition, le gouvernement a le plaisir d'aujourd'hui d'éclairer un peu l'importance du vote sur la démocratie. Premièrement, rappelons que le vote est une pratique pour défendre la démocratie qui date du temps grec. Et pendant ces 2000 ans, les temps s'est dégoulé, mais cette pratique est restée. Ce qui a déjà manifesté que la pratique de vote est soutenue par l'histoire et par le peuple.
Le gouvernement a parlé. Et pour apporter une réponse très sanglante, veuillons accueillir tout droit, bien sûr, de la République démocratique du Congo, Jocelyne Aziza.
Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Monsieur le Président de l'Assemblée, avec tout le respect que je vous dois, laissez-moi vous dire toute mon indignation. Oui. Mon indignation d'entendre cette assertion, le vote est l'arme du peuple. Je suis très choquée d'entendre le gouvernement défendre un tel argument, d'autant plus que je sais que Madame la chef du gouvernement se prépare à briguer le prochain mandat. Voilà pourquoi elle ne peut défendre que cet argument.
Puisque
nous, le peuple, nous savons que le vote ne profite aucunement au peuple. Puisque déjà, pour commencer le déroulement du vote. Quel est ce peuple qui le contrôle? L'issue du vote, à qui profite le vote? Nous avons expérimenté que le vote ne sert qu'à légitimer les projets de carrière à vie de nos hommes politiques et les membres du gouvernement, comme nous voyons ici. Voilà pourquoi je tenais à dire mon indignation, ma consternation d'entendre cet argument défendu par le gouvernement. J'ai dit.
Merci à Jocelyne Aziza de l'opposition. Que nous réserve.
C'était tellement prévisible, qu'est-ce que vous êtes?
Merci au gouvernement et à l'opposition qui vont se tenir tranquilles pour nous permettre d'avancer.
Alors bien sûr, tout cela nous permet d'avancer, mais je vous rappelle que nous sommes dans la danse des mots et que ce qu'on entend n'est qu'un jeu, une parodie d'une certaine façon, une imitation, disons une simulation d'un débat parlementaire pour s'entraîner justement à utiliser la langue française. On va en écouter un tout petit peu plus pour se familiariser avec les buts de cette simulation. En fait, on va comprendre mieux à quoi tout cela sert.
C'est une simulation de débat. Ça a été organisé spontanément par des jeunes participants au forum. Alors c'est une activité que une association de la ville de Kourougou au Burkina Faso a l'habitude de faire depuis maintenant 2 ans. C'est-à-dire impulser une certaine culture démocratique, une certaine culture à la parole politique, à la jeunesse. Et donc nous faisons des simulations de débat, comme dans les parlements, comme on le voit, comme souvent les oppositions, gouvernement et opposition. Alors donc nous essayons de répliquer ça ici au Forum mondial de la francophonie parce que nous estimons que tant que les jeunes ne sont pas intéressés à la chose politique, tant que les jeunes ne disent pas leur mot dans le débat politique, ça va être difficile pour que leurs préoccupations soient prises en compte.
Alors, à quoi ça sert ce jeu, cette simulation? Est-ce que ça sert surtout à ce que les gens soient conscients des contenus du débat démocratique en se confrontant à cette arme de la parole, justement, pour les familiariser à ce que c'est que le débat démocratique?
Alors, ce jeu, il y a 2 choses à l'intérieur. Il y a non seulement la forme, c'est-à-dire la manière de dire les choses, mais aussi le fond, le contenu de ce qui est dit. Alors, c'est pour amener les gens à prêter attention au contenu des débats, au contenu des propos lors des débats parlementaires et autres, mais aussi à faire attention à la manière dont c'est fait. Parce que, comme on le dit, c'est bien d'avoir une belle idée, mais c'est encore mieux de pouvoir la faire ressortir.
Est-ce que ça sert en même temps à ce que les gens soient plus conscients de ce qu'on peut appeler la rhétorique? C'est-à-dire qu'avec la parole, quand on sait s'y prendre, on peut convaincre à peu près n'importe qui d'à peu près n'importe quoi. Est-ce que ce jeu de simulation, ça aide à aiguiser l'esprit critique des gens qui voient qu'on ne peut pas tout absorber, tout accepter comme argent comptant et que de temps en temps, des belles paroles sont là pour vous tromper?
Tout à fait. Il faut que les uns et les autres sachent que en matière de parole, il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir bien parler. Et avec ces débats, on se rend compte qu'en réalité, il y a des choses qui sont dites qui n'ont pas de valeur en tant que telles dans le fond, mais par la manière dont elles sont présentées, par la manière dont elles sont dites, tout le monde y adhère. Alors donc c'est pour attirer l'attention des uns des autres sur le pouvoir de la rhétorique en quelque sorte, attirer l'attention de la jeunesse sur qu'est-ce que un mot peut peser s'il est bien placé et qu'est-ce que il peut entraîner comme changement si on ne fait pas attention au contexte dans lequel il a été dit.
Est-ce qu'en même temps vous pensez que c'est quelque chose qui peut aider les gens à dominer la langue, à se servir de la langue, à utiliser un outil qu'ils aient bien en main, quoi?
Alors, une langue, elle est faite pour être utilisée, elle est faite pour être améliorée, pour être performée, et des activités comme ça, des simulations comme ça, ça permet aux uns aux autres de faire ressortir le français, de faire ressortir leur langue, de s'extérioriser, de démontrer qu'ils peuvent manipuler, entre guillemets, la langue, ils peuvent être à l'aise pour dire des choses dans le bon français, dans la meilleure manière qui existe dans la langue.
Nous allons accueillir, bien sûr, comme ils insistent pour parler, le gouvernement avec Yves Biaou du Bénin.
responsable.
Bonsoir, cher peuple. Bonsoir, chers opposants.
À la fin,
c'est gentil. J'aimerais d'abord rappeler que ces trois dernières années, le peuple nous a fait confiance, le peuple a plébiscité notre gouvernement. Et donc, si nous sommes là, nous ne sommes pas dans une position d'imposture, c'est parce que le peuple nous a fait confiance que nous sommes là. Et je suis vraiment désolé que Madame Jocelyne ne puisse pas savoir que nous sommes le gouvernement ici et non l'Assemblée. Je suis désolé. Cela dit, l'importance, l'arme même du peuple, c'est le vote. C'est ce qui représente même la démocratie, parce qu'on dit souvent que la démocratie, c'est l'expression du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et comment est-ce que le peuple va voter? Et comment est-ce qu'on peut représenter le peuple?
Vous faites partie du peuple, vous?
Je fais partie du peuple, puisque je fais partie de la nation.
Silence! Et il y a le soutien du peuple!
Est-ce que je peux parler? Je peux m'exprimer?
Oui.
D'accord. Donc je disais que le vote est l'expression même de la volonté du peuple. Parce que si le peuple n'a pas quelque chose pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir élire ceux qui vont gouverner, enfin, et sa vie, et la ville où il vit, et le pays où il vit, il ne pourra pas être suffisamment représentatif dans la société. Il ne va pas se sentir concerné dans la gestion de la... Parce que le respect des institutions, en fait, c'est déjà ça. La liberté de pouvoir déjà voter pour celui qui va te représenter dans ta nation. Donc, c'est déjà important qu'on puisse laisser les gens avoir cette liberté d'aller voter. Alors, dire que le vote n'est pas une arme... Alors, c'est perdre le bon sens, alors que René Descartes disait déjà que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée.
Yves Biaoum, du gouvernement, a dit son mot, que nous réserve, bien sûr, notre intervenant du Québec. Veuillez écouter attentivement la réponse de l'opposition de la bouche de Samuel Samson.
Mesdames, Messieurs, en vérité, je vous le dis, si vous prétendez que le vote est l'arme du peuple, il est encore l'arme, le fait de ceux qui le manipulent. Et parce que le vote engage au discernement, et nos gens dans la rue ont soif, nos gens ont soif de vérité, soif de liberté, soif de justice. Et dans un monde où, pour paraphraser Baudelaire, l'action n'est pas la sœur du rêve, eh bien, le vote sert à légitimer les entreprises de manipulation, les fourberies fallacieuses du gouvernement. Le vote est l'arme de qui? Des affamés ou de ceux qui se repaissent leur faim? L'éducation est la véritable arme du peuple, car c'est elle qui conduit au discernement. C'est elle qui, par sa lumière éclair, conduit le peuple à se réveiller, conduit le peuple à s'émanciper, conduit à ces réveils qui, à travers l'histoire, ont suscité les mouvements sociaux. C'est la véritable arme du peuple, car c'est elle qui permet de marcher, de se lever, de se réveiller. Le gouvernement tente de nous faire croire que c'est par le vote que les gens peuvent se mobiliser. Or, il n'en est rien. Il n'en est rien, car c'est une illusion. Et puis, nous sommes convaincus que c'est en investissant en éducation que le peuple pourra se réveiller et pourra marcher.
pouvez nous écrire à l'adresse suivante danse.mots@rfi.fr.
La danse des mots toujours sur RFI. Qui se souvient de ce qui s'est passé en juillet dernier? C'était donc en Belgique, à Liège, lors du deuxième forum mondial de la langue française où nous assistions à une simulation, à une fausse séance d'une assemblée parlementaire. Et j'ai demandé à l'un des organisateurs, donc toujours Jonas Basile, qui était concerné par ce genre de joute oratoire.
Alors, ce jeu, il intéresse surtout les jeunes scolaires, c'est-à-dire jusqu'à la classe de terminale. Mais cette année, nous avons intégré l'aspect universitaire. À partir de la première année à l'université et tout, on a réussi à créer cette synergie qui est de réunir autour de la même compétition et des élèves qui n'ont pas encore le bac et aussi des étudiants qui ont le bac, mais les niveaux de compétition sont différents et les niveaux des thèmes aussi sont différents en fonction de la qualité des participants. Voilà.
Et vous organisez ces manifestations de façon tout à fait indépendante ou est-ce que vous êtes lié à l'université ou au système scolaire?
Alors, nous fonctionnons en tant qu'association, une organisation de la société civile. Nous menons ça en tant qu'une activité que nous avons initiée avec un appui extérieur, l'appui de l'Assemblée parlementaire francophone. Et en dehors de cela, nous tenons les autorités informées de l'activité. Nous ne pouvons pas la mener ex nihilo. Nous sommes dans une société, nous sommes dans une ville. Il y a des autorités, nous les tenons informées et d'ailleurs, elles sont toujours présentes quand il s'agit des finales. Donc, elles sont bien informées, elles essaient de nous accompagner administrativement pour mener à bien cette activité.
Mais c'est quelque chose de ludique, on fait comme si, et donc il n'y a pas de censure, vous n'avez jamais eu de problème avec un pouvoir, quel qu'il soit, à cause des propos qui étaient tenus dans ces simulations justement d'activités politiques.
Tout à fait, c'est la grande liberté de ton dans ce jeu, et jusque-là, Dieu merci, on n'a pas encore connu de difficultés liées à la hauteur du ton qui est employé dans le jeu. Je pense que les uns et les autres sont arrivés à une certaine maturité qui fait qu'ils comprennent que le débat, il est important. Il faut le mener et quand il est là, il faut le mener. Et à ce titre-là, personne ne nous dérange jusque-là.
Merci beaucoup à Jonas Basile et à Saïdou Kohanda que j'ai enregistré avec tous ceux qui participaient à cette joute oratoire à Liège en juillet dernier au Forum mondial de la langue française. Et il est temps maintenant dans la danse des mots de retrouver Delphine Barraud.
Ma parole, ça t'apprendra.
Mais ma parole, il est l'heure et presque plus que l'heure de retrouver dans ma parole et dans la danse des mots, de retrouver Delphine Barraud. Bonjour Delphine Barraud.
Bonjour.
Vous êtes bien bonne couleur. J'imagine que vous rentrez de l'étranger, ne serait-ce pas de Madrid.
Effectivement, on est allé, le service langue française est allé à Madrid pour les journées du français langue étrangère.
Et vous étiez donc accueilli, je crois, par l'Institut français.
L'Institut français de Madrid.
Il est vrai qu'on parle très souvent de ces instituts français, on ne se donne même plus la peine de les définir. Dites-nous deux, trois mots sur ce que c'est que les instituts français. À quoi ça sert, cette institution?
Alors, l'Institut français est l'opérateur du ministère des Affaires étrangères et européennes. Ils sont chargés de la diffusion de l'apprentissage et de la culture française dans le monde. En Espagne, il y a beaucoup d'instituts. Il y en a à Madrid, on vient d'en parler, à Barcelone, à Bilbao. Et ils donnent des cours à de nombreux élèves. Et ils sont chargés aussi de promouvoir des événements culturels. Donc, pour vous donner des exemples, par exemple, Vincent Cassel est venu en septembre à l'Institut français de Madrid. Ils attendent l'écrivain Emmanuel Carrère et Nathalie Dessay pour donner un concert. Il y a énormément de choses qui sont faites, des conférences, des spectacles, des pièces de théâtre, séances de cinéma, etc. Donc, parmi tous ces événements organisés, il y a eu les journées du français langue étrangère, qui sont un temps fort pour les professeurs de français en Espagne. Alors, Agnès Baguer, qui est chargée notamment de l'organisation de ces journées, nous en dit un peu plus.
L'événement des journées du français langue étrangère a été lancé en septembre 2009. Donc, l'Institut français de Madrid a organisé les premières journées donc il y a 7 ans. C'est cette année la 7e édition. Et nous avions déjà donc dans l'idée de créer un partenariat entre les éditeurs et les spécialistes experts du FLE en Espagne et également des DNL, disciplines non linguistiques, pour permettre d'avoir des rencontres sur Madrid qui, à l'époque, n'existaient plus ou n'avaient pas été reprises. Donc donner un espace pour les professeurs et la coopération linguistique.
Alors bien sûr, le monde de l'édition est partie prenante aussi de ce monde de l'enseignement. Vous en avez eu quelques échos quand vous étiez à Madrid, Delphine ?
Oui, les journées sont organisées notamment avec le soutien des éditeurs espagnols et français spécialisés dans le domaine du FLE, plus les secteurs, les professionnels du secteur.
Alors le FLE, on le rappelle encore, c'est le français langue étrangère, FLE, voilà. Oui.
Et le public vient de toute l'Espagne, des professeurs de français de toute l'Espagne, plus leurs collègues des sections bilingues. Donc vraiment, l'objectif, c'est de créer un événement du FLE sur Madrid. Alors, on a rencontré Nicolas Casañades, qui est le directeur général de l'Institut français d'Espagne, et qui nous parle du côté fédérateur de cet événement.
Ces journées FLE sont évidemment des moments extrêmement importants pour nous dans l'année, puisqu'elles permettent de rassembler les professeurs et les enseignants de français en Espagne. Et pour moi-même, en tant que conseiller culturel de l'ambassade et directeur général de l'Institut français d'Espagne, c'est un moment fédérateur d'une grande importance, puisque ça permet de rassembler tous ces enseignants de français. Alors d'abord, il y a un aspect un peu... pas sentimental, mais symbolique, je dirais, et un peu émotionnel, qui est que chacun en se retrouve tous. Et donc, c'est un moment où on voit bien qu'il y a une communauté des professeurs de français, et chacun voit bien qu'il y a un objectif principal, qui est celui de la diffusion du français.
Alors, les professeurs viennent donc pour se retrouver, mais aussi pour rencontrer les éditeurs, on en parlait tout à l'heure, et aussi dans un objectif de formation, parce qu'il y a des conférences qui sont organisées, et il y a des présentations de méthodes, et il y a de nombreux ateliers. Sur les 2 jours, il y a eu à peu près une trentaine d'ateliers, et c'est là où, avec RFI, le service langue française, en plus d'avoir un stand sur le forum, est intervenu. Donc, parmi les thèmes qui ont été développés cette année, il y avait l'espace et le corps dans la classe. Donc, il y avait des ateliers sur les bienfaits du yoga en classe de français langue étrangère.
Et il y a du yoga en français langue étrangère ?
Je ne savais pas, mais visiblement, oui, c'est une nouvelle orientation. Donc,
comment on dit yoga en français langue étrangère ? Yoga.
Yoga.
Voilà, je pense aussi.
Et il y avait aussi le thème collaborer pour apprendre. Donc nous, notre atelier, c'était vraiment comment organiser dans un projet collaboratif, dans une classe, comment réaliser une émission de radio tous ensemble, et puis pour la partager ensuite sur la communauté du nouveau site à venir RFI Savoir.
Comme qui dirait, le FLE que tu m'avais jeté, puisque nous sommes en Espagne et qu'on peut citer Carmen. Eh bien, merci beaucoup Delphine Barrault de nous avoir donné toutes ces informations sur les journées du français langue étrangère à l'Institut français de Madrid. Et merci d'avoir été avec nous dans la danse des mots, de même qu'étaient avec nous tous ceux que nous avions enregistrés à Liège au Forum de la langue française il y a quelques mois. C'était donc la danse des mots, une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI, Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Amar.
Vous souhaitez réécouter l'émission La Danse des mots ? Rendez-vous sur le site internet rfi.fr.